oui. Bah, ce sont des gens qui sont un petit peu à la lisière, sinon de la société, du moins des travaux salariés convenables.
Maldita muchacho, se lo lleve el diablo. Maldita muchacho, se lo lleve el diablo.
Juro,
juro muchacho.
Palma,
se lo lleve el diablo.
Juro,
juro muchacho, se lo lleve el diablo.
Malo,
maldito muchacho, se lo lleve el diablo.
Malo,
maldito muchacho, se lo lleve el diablo.
Juro,
juro muchacho, se lo lleve el diablo.
Yo voy a los montes ligeritos.
Imaginez la scène. Une odeur de café brûlant, la brume des rêves qui s'estompent. Avant de partir, nous voudrions rester. Les couleurs changent. Vous y êtes. C'est l'ordre du jour qui commence.
Se lo lleve el diablo.
Malo,
maldito muchacho. Se lo lleve el diablo.
Malo,
maldito muchacho. Se lo lleve el diablo.
Juro,
juro muchacho. Se lo lleve el diablo.
Malo,
maldito muchacho. Se lo lleve el diablo.
Malo,
malo muchacho. Se lo lleve el diablo.
L'enfance de Théo dura 107 ans, on n'en voyait pas le bout. En ce temps-là, les semaines étaient bourrées de jours à craquer. Il y en avait autant qu'on pouvait en faire tenir pour éloigner jeudi dernier de jeudi prochain. Et chaque jour durait autant qu'il fallait pour qu'on se mette au lit sans regretter de n'avoir pu accomplir telle chose ou telle autre. Un été de ce temps-là durait plusieurs fois le temps d'une vie. Théo avait été photographié tout nu sur une peau de bête avec des cerises en plâtre dans un coin. Puis, il était allé à la petite école. Il avait appris ses lettres et s'était fait beaucoup de taches sur les doigts. On lui avait enfoncé dans le crâne la bonne méthode pour dénombrer les espaces qu'il y a entre des arbres, des piquets, et compter les morceaux de carrelage sur un mur, et mesurer la vitesse d'une locomotive et dire à quelle heure il croise une charrette. Théo ne voyait pas à quoi tout cela était bon. Il préférait regarder sur le livre les images de Clovis cassant la cruche, ou de Gambetta ôtant son gibus dans un ballon. Il attendait le moment d'aller dehors. Dehors était le vrai monde à Théo, où les locomotives se fichaient pas mal des charrettes. Les trottoirs avaient une autre odeur que maintenant, on pouvait se coucher dessus pour faire le mort. Dans bien des rues, cependant, il n'y avait pas de trottoir du tout. Un sentier courait en zigzag au milieu des herbes, sur un talus. Vous entendiez la cloche de Saint-Joseph en jouant aux Indiens. Le crépi de la maison avait pris une couleur de vieil or patiné. L'ombre tiède et précieuse s'épanchait de sa gousse et se répandait sur la ville. Les martinets plongeaient bas au-dessus des têtes, tandis que les gens se parlaient sans s'écouter. Ce qu'ils écoutaient, c'était la cloche de Saint-Joseph, égrenant lascivement 7, 8, 9 coups. L'air était plein du capiteux parfum de la sueur de bois chauffée au soleil. Les murs exhalaient d'épaisses et odorantes bouffées de chaleur. Il y avait toujours un chien qui aboyait là-bas. Il faisait beau, du matin au soir. Le faubourg avait un nom, Faubourg des Vosges, bien qu'aucune de ses rues ne se soit appelée ainsi et que son artère principale ait reçu le nom d'avenue Jean Jaurès. Les riches habitaient Faubourg des Ancêtres, Faubourg de Montbéliard, Faubourg de France, Faubourg de Lyon, quai Vauban, rue de la République, rue Michelet, et dans le bas de la rue du Magasin, près du pont. Le père de Théo avait une minuscule boutique dans la rue quand même. Il réparait les assiettes. C'était un petit homme timide, fragile, déçu, plein de peur et de frilosité. Même lorsque Théo était enfant, son père paraissait très vieux et très fatigué. On avait toujours l'impression qu'il tremblait. Quelque chose ou quelqu'un l'avait vaincu, autrefois. Depuis lors, il campait dans sa défaite, déambulant à petits pas, un fardeau invisible écrasant ses épaules. Théo avait aimé cet homme d'une façon farouche et insoupçonnable. Il ne lui parlait pas, il ne le regardait guère. Mais il l'aimait comme on ne peut pas aimer beaucoup d'êtres dans une vie, parce qu'on n'a pas le cœur assez fort. Une des idées secrètes de Théo était que si on avait fait du mal à son père autrefois, un jour, il le vengerait. Théo avait honoré son père dans le secret de son cœur, et il l'avait aimé. Son père qui ressemblait dans sa vie à la figure éteinte d'une ancienne photographie, et qui s'était avancé à petits pas au travers d'un poussiéreux parfum d'automne finissant, ne sachant comment s'excuser de son insignifiance, et qui allait vers son échoppe dans la nuit mouillée des matins de novembre, après avoir couru et crié de joie dans les montagnes étant jeune homme. Un vieux polichinelle au cœur là, que les villes avaient renversé, humilié, flétri, si bien qu'il ne pouvait plus avaler qu'un air déjà respiré par d'autres, et qu'il ne savait pas qui remercier pour cela. Théo entra dans la boutique. Son père avait le dos tourné. Il entendit du bruit et bougea la tête. En voyant que c'était Théo, il eut un sourire clair et chaud que l'enfant ne lui connaissait pas. Un genre de sourire que celui-ci ne pouvait pas comprendre, n'ayant pas encore eu assez de malheur, et qui devait dater de l'époque où son père courait au milieu des collines, un foulard rouge autour du cou. Il reste debout devant son père, dans la lumière un peu rousse de la boutique, avec la poudre dorée roulant paresseusement dans les rayons obliques du soleil. L'enfant songe tout à coup aux images du catéchisme, où l'on montre le Saint-Esprit. On aurait dit que le sourire de son père éclairait toute la pièce. « Viens, mon garçon, viens un peu. » On avait chuchoté, mais Théo entendit ces mots comme si l'univers entier avait hurlé à plein poumon. Il courut se percher sur les genoux du vieux. Alors, le père prenait tous les outils l'un après l'autre. Il les nommait. Il disait pourquoi c'est faire et comment ça marche. Il montrait les gestes à Théo, il mettait la main de Théo comme il faut sur chaque outil et guidait sa main pour faire le geste qu'on doit. Et l'enfant s'appliquait et gravait le nom de chaque outil dans sa tête, tandis que les doigts de son père passaient si doucement sur les objets, si tendrement sur les objets. Et comme son père caressait les morceaux de vaisselle et remettait les outils bien en ordre, il expliquait à Théo le mariage qui existe entre les hommes et les objets. Et ce mariage, c'est le travail. Le travail, disait-il, n'est pas fait pour avoir des sous. Non, mon petit Théo, le travail est autre chose. Le travail, c'est comment dire, quand on sent qu'on est à sa place, comprends-tu? Théo ne comprenait pas, mais il gravait chaque mot dans sa tête à côté du nom de chaque outil. Et son père disait, « Ce n'est pas la faïence que je répare avec mes mains. Je ne recoue pas des morceaux d'assiette ensemble. Je recoue des morceaux de moi, avec tout ce qu'il y a autour et qui est notre vie. Il faut bien la prendre telle qu'elle est. »
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolé. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance et quelques pas de deux et quelque part de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Bonjour. Vous écoutez l'ordre du jour et ce matin, nous transmettons. Quand il faut partir, pourquoi voulons-nous rester? Que laisser dans le sillon des pluies diluviennes et des adieux si sages? Et que resterait-il de nos passages en ces lieux? Car c'est l'avant-dernier épisode et bientôt, nous partons. Et on entendait en tout début d'émission le poids des gestes qui se transmettent sans comprendre, l'admiration magnifique qui se mue en amour douloureux, le chant du faubourg de l'enfance, lorsqu'on ne sait pas ce que demain veut dire. C'étaient des mots assemblés d'Alain Gerbet dans le tome 1 de l'enfance de Théo, Le faubourg des coups de trique, 1979. Et dans la nuit noire, en attendant que la terre veuille bien tourner, les locomotives affamées traquent la plaine et laissent leurs plaintes brûlantes dans tous les souvenirs. Et la campagne est alors pleine d'échos, comme un hall de gare. Aucun besoin qu'elle ne tourne encore, la terre. Rémi, lui, grave le temps immobile, le chant des ancêtres lorsqu'il n'était qu'insecte et roi, dans le chant détourné de son propre corps d'été.
Je profite d'un petit instant dans un camion, dans mon camion. Pour apprécier ces bonheurs simples. Une musique qui se mélange au grillon. Et moi, j'écoute. Comme c'est appréciable de pouvoir prendre le temps.
Tout ceci ne serait qu'enfance, à penser laisser ceux qui viendront ensuite. Car aujourd'hui, nous sommes jeudi, et dans le souvenir de beaucoup d'entre vous, le jeudi est le jour de l'enfance.
Mimi, 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 tu me désespères. Jamais le temps, pas le temps, le temps de rien. Mais voici l'hiver qui vient, pas le temps, pas le temps, jamais le temps de faire un enfant. Pas le temps, jamais le temps, pas le temps. Et moi qui ai 30 ans, pas 25 comme tout le monde croit. Mimi, Mimi, tu me désespères, jamais le temps de rien. Et voici l'hiver qui vient, pas le temps, jamais le temps, pas le temps de faire un enfant, et moi qui ai 30 ans. Mimi, 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 on va à la merde, je crois. Un enfant, Mimi, un enfant. Un enfant dont je serai le père, Mimi, pas le temps. Mimi, Mimi, tu me désespères, jamais le temps de rien. Et voici l'hiver qui vient, pas le temps, jamais le temps, pas le temps de faire un enfant. Et moi qui ai 30 ans, et moi qui ai 30 ans, pas 25 comme tout le monde croit. Un enfant, Mimi, un enfant dont je serai le père. Pas le temps, pas le temps, le temps de faire un enfant. Mimi, 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 quittons cette galère. Mimi, 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 on va à la mer, je crois. Un enfant dont je serai le père, Mimi, un enfant. Mimi, Mimi, tu me désespères, jamais le temps de rien. Et voici l'hiver qui vient, pas le temps, pas le temps, pas le temps de faire un enfant. Et moi qui ai 30 ans, Mimi, Mimi, tu me désespères, jamais le temps de rien. Et voici l'hiver qui vient, pas le temps, jamais le temps, pas le temps de faire un enfant. Et moi qui ai 30 ans.
Il ne cesse de chercher les raisons de ses rêves d'adulte. Voici pour l'avant-dernière fois l'inconnu, Quentin.
Alors oui, je sais, je suis pas tombé de mon landau étant petit. Et oui, peut-être que j'ai eu une enfance heureuse. Oui, heureuse. Et puis, c'est vrai, j'étais pas dans la bonne ville ou pas au bon endroit, mais bon. C'est pas une raison. Moi, j'étais petit, et comme tous les petits, je rêvais. Quand la fin est venue, quand, sans trop le savoir, j'ai senti que j'étais passé de l'enfance à l'adolescence, il y a eu de ces soirs si tristes où je m'agenouillais devant ma fenêtre grande ouverte sur le froid hivernal, et je contemplais les étoiles, je t'y cherchais. Je priais pour que tu viennes me chercher, pour que tu me donnes un signe, mais tu ne l'as jamais fait. Et pourtant, je n'ai jamais cessé de croire en toi. Même étant devenu adulte, et alors même que je sais que je n'ai plus aucune chance de te rencontrer, je n'ai pas cessé de croire. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de t'en vouloir, de ne jamais être venu. Alors oui, je sais, on ne peut pas attendre de toi que tu te préoccupes de d'autre chose que de ta petite personne. Mais c'est ce qui fait tout ton charme. Je pouvais pas faire exprès de tomber du landau. J'étais trop petit, je savais pas comment qu'on fait. Et même en y tombant, que d'abord j'aurais même pas été sûr que tu viennes me chercher. Oui, je l'aurais fait. Crois-moi, quoi te faire. Si je mange, je vais en enfer.
Pourquoi vouloir rester ? Il suffit de tout laisser en chemin. Répéter ne servirait qu'à tout oublier.
C'est-à-dire que je n'ai pas craint de me répéter, de retomber dans mes habitudes, mes erreurs, mes goûts, je fais ce qui me plaisait. Je me suis aperçu que parfois je me répétais un peu, enfin ou bien je reprenais des personnages un petit peu du type que dans d'autres livres. C'est ce que j'appelle avoir. C'est ce qui m'a plu. Alors, quelquefois, on s'imagine que ça pourra intéresser. Et celui-là, j'ai écrit, je ne dirais pas pour moi, mais enfin, sans tenir compte des malentendus de certains aspects de ce roman.
Vous n'avez pas cherché à vous renouveler, par exemple, c'est un souci.
Non, puisque j'ai repris justement des aspects, des situations, par exemple, que j'avais déjà utilisées.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifices, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel. Oh, ciel. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin. On est loin. Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. rêves de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, oh ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin. On est loin. Madame rêve,
Madame rêve.
Loin au ciel. On est loin.
Madame rêve.
Madame rêve.
Existerait-il véritablement un goût de l'archive ? À remonter le temps, Alban revient en Angleterre, un été plus tôt, quand elle dessinait la carte de ses errances des chemins tracés dans les comportements des autres.
This is your puppy, your golden.
Yes, and that takes you right over to Bowness and Windermere.
Okay.
But that would be...
And in the north of, where is it?
So something else.
This part here, is it nice as well?
I live here.
Mm-hmm. Okay, you live... So every day you're coming...
Yes.
You come here to work?
Yes.
Okay.
Here's nice. Keswick. Where's Keswick? Keswick's back here, I think. Keswick. No, it's not what am I thinking. I'm not very good with maps, am I? I'm not very good with maps at all. Keswick.
Okay.
This is nice.
Okay.
So you come A595. Once you get out of Gosforth,
yeah.
Keep on the A595 and follow it all the way around. For signs for Keswick. That's nice.
Mm-hmm.
It's a nice place. Cockermouth's got a little quirky little village.
Which one?
Cockermouth.
Okay.
Nice shops. As for your views and things, Bowness and Windermere, you can go on the ferry and you can have a drink in the pub and sit on by the rivers and beautiful Bowness and Windermere.
Okay.
That's where I would rather go.
Okay.
Oh.
And we've got last one question about this wall.
Yeah.
Do you know a bit about it?
Who?
The Adrian Wall. Can we see it around there? Or
Adrian's Wall, where is it?
Have you been? You know, it's like the line in between Scotland and England, apparently, yeah.
Is it far from here?
Adrian's Wall. Bear with me a moment.
Okay.
Thank you. All right. Nice to meet you.
You're right. You live on Adrian's Wall.
Yeah, we wanted to know if we can see it in this area, or we have to go further.
No, you can. You will be able to see it. Your best way is further east, though.
Okay.
There's a lovely road that actually follows the wall.
This one?
The yellow road, I think it is. That's the one you want. That's the road.
Mm. Okay.
See how it comes really close? So there's lots of places you can stop and walk to the wall from along there. But it's a really nice route, that route. That's the way I would go. Okay.
Okay.
No worries.
Okay, thank you for your help.
Dans la nuit noire d'une salle de cinéma, pendant que le jour se lève, se creusent les galeries souterraines desquelles il faudra se hisser, dormantes invisibles. Par Olivier.
Pauvre vagabond, sans maison, sur les routes, dans les bois, vous qui êtes tapis, tout au mieux, sur un tas de feuilles, ou dans la horde de vos compagnons. Livré à tous les dangers du ciel et de la terre. Oui, d'ailleurs, comment voulez-vous jouer ça? Où sommes-nous? Certains ont voulu voir dans ce texte de Kafka, le terrier, une métaphore sur ses poumons malades. Mais Kafka n'est pas médecin. S'il creuse, il fouille, construit, déconstruit. C'est plutôt dans les cerveaux, toutes ces galeries. Peut-être des pensées. Comme un scientifique, un chercheur. Une hypothèse, et on va jusqu'au bout. Toutes les directions, d'un point. On fait une architecture, un château. D'un point, on crée un monde.
C'était la dernière émission, ou presque, car nous voudrions rester encore un peu. Elle était préparée avec la grande complicité de celui qui aura tracé en moi le goût des choses, mon père évidemment. Pendant ce temps, l'ordre du jour s'est placé. Il n'en restera bientôt plus grand-chose. Il est donc temps de tout vous dire, c'est-à-dire de vous souhaiter une très belle semaine.
Well, they sent someone new. This time tomorrow I know what to do. I know it's happened to you. Stay. That's what I meant to say, or do something. But what I never say is stay this time. I really meant to so bad this time. For you can never really tell when somebody wants so much to stay. Oh, that's what I meant to say or do something. But what I never say is stay this time. I really meant to be so bad this time. For you can never really tell when somebody wants something you want to.
Écoutiez l'ordre du jour, il faisait nuit, il fait jour, sur Studio Zeph.